On a coutume de dire que c'est lorsqu'une personne a une position d'autorité qu'on se rend vraiment compte de quelle étoffe il est fait en fonction de la façon dont il se comporte. Jean-Baptiste était un personnage très coloré. Il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles et habitait le désert. Pourtant, il n'était pas voué à une vocation d'ermite, loin s'en faut. En fait, dès qu'il commence son ministère, des foules viennent spontanément à lui. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il devient la vedette du nord de la Palestine et fait la une de tous les journaux. Alarmé par sa popularité qu'il ne contrôle pas, les autorités religieuses de Jérusalem lui rendent visite. Il est normal de penser que le nombre impressionnant de gens qui venaient à lui pour se faire baptiser lui a monté à la tête. C'est difficile de garder le sens de sa mission quand on vous met sur un piédestal. Voilà donc pour Jean-Baptiste l'occasion parfaite de se faire mousser un peu en se présentant comme un grand prophète de l'Éternel, ce qu'il était. Dans la fable du corbeau et du renard, ce dernier a réussi à s'emparer du fromage que tenait l'autre dans son bec en le lui faisant ouvrir grâce à sa flatterie. Mais Jean-Baptiste faisait partie d'une race en voie de disparition. C'était un pur qui n'était pas à vendre. Vous en connaissez beaucoup des gens comme ça? Nous allons découvrir que Jean-Baptiste était un homme humble, qui ne cherchait nullement à attirer les feux des projecteurs sur lui. Il avait été envoyé comme témoin et précurseur de Jésus-Christ, et il a parfaitement rempli son mandat. Un peu plus loin dans l'Évangile, les disciples de Jean-Baptiste vont se montrer jaloux pour leur maître. Ils viennent donc le trouver pour qu'il se mette en avant par rapport à Jésus et qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Mais Jean-Baptiste, en parlant du Christ, leur répondit, et je cite, « Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. » Fin de citation. Je continue le chapitre 1er de l'Évangile de Jean. Il dit clairement la vérité sans se dérober et leur déclara ouvertement, « Je ne suis pas le Messie. » « Mais alors, continuèrent-ils, qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? Je ne suis pas. Es-tu le prophète ? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu ? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Verset 20-22. Le mot Messie veut dire celui qui a été oint d'huile, signifiant par là qu'il est consacré au service de Dieu pour une certaine fonction. Dans l'Ancien Testament, les rois, les prêtres et quelquefois les prophètes étaient oints. Jésus est celui qui est le consacré par excellence puisqu'il réunit ces trois fonctions en sa personne. Il était à la fois prêtre, prophète et roi. Il est le successeur au trône de David. Il est le prophète qui avait été annoncé par Moïse et il va devenir le grand prêtre qui va s'offrir lui-même en sacrifice. Donc Jean-Baptiste avoue très franchement ne pas être le Messie. Mais au fur et à mesure qu'il est interrogé, ses réponses concises vont se faire de plus en plus courtes. Et il ne voulait pas parler de lui-même, car son rôle consistait à diriger l'attention du peuple vers Jésus-Christ. Je continue avec la réponse de Jean-Baptiste. « Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, « Préparez le chemin pour le Seigneur. » Verset 23. Jean-Baptiste était la voix, tandis que Jésus était la parole. Être une voix est tout ce que ce prophète ambitionnait, car son message était infiniment plus grand que lui. Il est comme un panneau indicateur qui pointe les gens dans la bonne direction, vers Jésus-Christ. Cette voix tonne dans le désert. « Préparez le chemin pour le Seigneur !» En d'autres termes, « Préparez-vous pour la venue du Seigneur des Seigneurs !» C'est la même chose que le royaume des cieux est proche, à cause de la présence du roi des rois. Jean-Baptiste fait un appel à la repentance. Il dit en substance, reconnaissez vos fautes afin de préparer votre cœur à accueillir le Seigneur. Jean-Baptiste affirme avoir trouvé la clé de son ministère dans la prophétie d'Ésaïe, que je cite. On entend une voix qui crie dans le désert, dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Fin de citation. Or, Ésaïe annonce dans les chapitres qui suivent cette citation, la venue du serviteur de l'Éternel, du consacré par excellence, de loin, sur lequel l'Esprit reposera et qui, tel un agneau, donnera sa vie pour les péchés de son peuple. Ce sont précisément ces réalités que Jean-Baptiste rappelle dans les versets qui vont suivre. Je continue. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. « Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu » Moi, leur répondit Jean, « Je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Versets 24 à 26. Les pharisiens étaient une secte importante au nombre d'environ 6000 et qui s'adonnait à l'interprétation rigoureuse de la loi, tout en épousant de nombreuses traditions orales quelque peu abracadabrantes. Les pharisiens furent le seul groupe à survivre de la liste que j'ai mentionnée suite à la guerre juive qui dura de l'an 66 à 70 après Jésus-Christ. Ces autorités juives ont donc demandé à Jean-Baptiste « Pourquoi donc baptises-tu ?» Mais il n'a jamais vraiment répondu à leurs questions. Il savait qu'il n'était que l'annonciateur de quelqu'un d'autre, mais n'avait aucune envie de se lancer dans des explications qui défendraient son rôle. Au lieu de cela, il dirige une nouvelle fois l'attention de ses auditeurs vers celui qui va venir et qui va baptiser du feu, du jugement et du Saint-Esprit, ce qui aura lieu à la Pentecôte. Je continue le texte. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Versets 27 à 28. Dénouer les sandales du maître était la tâche d'un esclave. Un disciple ne l'aurait pas fait. Or Jean s'estime même indigne de rendre ce service à Jésus, tellement ce dernier est grand. L'apôtre Jean, l'auteur du présent évangile, relève souvent des détails d'ordre géographique ou temporel. Ici, il mentionne Béthanie qui ne nous est pas connue. Puis il va préciser que c'est le lendemain qu'a lieu l'événement suivant. C'est ainsi que l'auteur montre que la parole qui a quitté la gloire céleste et l'éternité a été faite chair et s'est insérée dans l'espace-temps de notre bas-monde. Je continue. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Verset 29. Le deuxième témoignage de Jean-Baptiste est structuré par des précisions d'ordre temporel. Jean met ici l'accent sur le rôle de sacrifice de Jésus-Christ. Il n'est pas seulement le Messie, mais aussi le Sauveur. En fait, il est le parfait agneau de Dieu qui a le pouvoir d'enlever les fautes, d'effacer la culpabilité de l'homme et surtout mon ardoise. Dans l'Ancien Testament, c'était le bouc qui faisait l'expiation des péchés. Par contre, c'était des agneaux qui étaient sacrifiés quotidiennement, matin et soir, ainsi que pour la Pâque juive, symbole de la délivrance divine. Cette parole de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu » est en quelque sorte l'accomplissement de la réponse qu'Abraham avait donnée à son fils Isaac lorsque tous deux cheminaient vers le lieu du sacrifice. Je lis le passage. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père !» Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Fin de citation. De plus, l'agneau de Dieu fait penser à l'offrande qu'apporta Abel à l'Éternel tout au début du genre humain. Je rappelle aussi ce passage. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Fin de citation. Il y a fort à parier que c'était bel et bien un agneau qu'Abel offrit à Dieu, ce qui lui coûta d'ailleurs la vie aux mains de son frère Caïn. Je continue le texte. « C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi, il m'a précédé car il existait avant moi. Moi non plus je ne savais pas que c'était lui, mais si je suis venu baptisé dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. » Versets 30 et 31. Jean-Baptiste répète ce qu'il avait dit plus tôt au sujet de Jésus. Sa renommée devait être supplantée par celle de Jésus dont la supériorité repose sur sa préexistence. Jean-Baptiste ne savait pas que Jésus était le Messie jusqu'à ce que celui-ci soit révélé par le Père. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait préparer le chemin pour Jésus en venant baptiser d'eau. Je continue le texte. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptisé dans l'eau m'avait dit, « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. » Versets 32 à 34. Jean ne mentionne pas le baptême de Jésus, par contre, il souligne bien le fait que Jean-Baptiste a vu l'Esprit invisible venir du ciel et se manifester sous une forme corporelle et s'arrêter sur Jésus comme une colombe. Lui, il baptisait d'eau les Juifs qui venaient à lui, ce qui est une chose, mais la purification résultant de l'Esprit est d'un tout autre ordre. Plus tard, lors de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, le baptême du Saint-Esprit introduit une nouvelle ère, celle de l'Église, ou ère de l'Esprit. Je continue. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda, « Que désirez-vous ? » « Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu ? » Versets 35 à 38. Le témoignage de Jean-Baptiste, c'est la déclaration que Jésus est le Fils de Dieu. Or, le roi messianique et le descendant de David qui avait été prophétisé était le Fils de Dieu. Jean-Baptiste passe le bâton. L'action se déplace maintenant du baptême de Jean-Baptiste au ministère de Jésus. Un des deux disciples qui se mirent à suivre le Christ s'appelait André, tandis que l'autre est probablement Jean, qui ne se nomme jamais dans le récit. Au vu de l'enseignement souvent à double signification de Jésus, sa question « Que désirez-vous ? » veut sans doute aussi dire « Que cherchez-vous dans la vie ?» Je continue le texte. « Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Cephas », ce qui veut dire « Pierre ». Versets 39 à 42. « Venez et voyez » est toujours d'actualité aujourd'hui. Ainsi, quelqu'un doit d'abord venir à Jésus avant de voir où Jésus demeure et aussi qui il est. Jean précise qu'il était 4 heures de l'après-midi. Il essaye continuellement de structurer son récit autour de renseignements temporels. André alla chercher son frère Simon. Mais ce dernier était un faible, impétueux, certes, mais indiscipliné. Il avait tendance à parler avant de penser. Jésus lui dit « On t'appellera Cephas », ce qui veut dire en substance qu'il deviendra solide comme le roc. C'est lui qui, le jour de la Pentecôte, se leva pour donner la première prédication publique après la résurrection. Et quel sermon ! Suite à quoi quelques 3000 personnes se joignirent à l'Église naissante. Je continue le texte. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » Versets 43 à 45. Nous voici à nouveau en pleine géographie. Bethsaïda est située au bord de la mer de Galilée, d'où opéraient Pierre, Philippe et André, parce qu'ils étaient tous pêcheurs. La loi est le nom que les Juifs donnent aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament et donc de la Bible. Jésus est fils de Joseph parce qu'il était légalement considéré comme tel, et puis les disciples ne savaient pas encore que la conception du Fils de Dieu avait été miraculeuse, bien que celle-ci soit mentionnée noir sur blanc dans les prophéties de l'Ancien Testament. Ils ont une certaine connaissance et compréhension du Christ, mais elle reste très insuffisante. Elle ira en s'approfondissant au fil des mois et des années, mais ce n'est vraiment qu'après la résurrection que tous les morceaux du puzzle que représentait Jésus pour eux se mettront en place. Je continue. « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Viens et vois toi-même, » répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. » Versets 46 à 47. Nathanaël connaissait la mauvaise réputation de Nazareth, une garnison romaine. C'était un peu comme Saïgon lors de la guerre du Vietnam. Pour les GI américains qui étaient stationnés, c'était drogue et sexe à gogo entre les batailles. Philippe ne se laisse pas démonter et cette fois-ci c'est lui qui dit « Viens et vois par toi-même ». Nathanaël était un réaliste, mais quelqu'un de droit en qui il n'y avait pas de fraude. Il n'était ni rusé ni trompeur. Jésus le qualifie de « véritable Israélite », c'est-à-dire un Juif qui va éventuellement croire en lui en tant que Messie, ce qui sera également le cas de ses premiers disciples. Je continue. « D'où me connais-tu ? » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » « Maître !» s'écria Nathanaël, « tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Versets 48 à 49. D'abord un douteur, cet humble pécheur est fortement impressionné par la connaissance d'origine surnaturelle de Jésus. cela ne veut pas dire qu'il ait vraiment compris à qui il avait affaire. Ses paroles en disent plus long que sa foi et sa tête est encore en avance sur son cœur. Je continue. « Tu crois ?» lui répondit Jésus. « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Versets 50 à 51. Le Fils de l'homme est le titre par lequel Jésus est le plus souvent désigné. Il l'a utilisé plus de 80 fois en parlant de lui-même. Par ailleurs, la déclaration « Oui, je vous l'assure », aussi rendue dans certaines versions par « En vérité, je vous le dis », apparaît 25 fois dans l'évangile de Jean et elle attire toujours l'attention sur une importante affirmation. Que veut dire l'affirmation de Jésus « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. »